c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr. On écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente. Chut, on écoute la télé avec votre Club Med La Palmyre Atlantique. Envie de vous évader le temps d'une journée ou d'une soirée all inclusive? Avec votre Club Med, c'est possible. Profitez des animations et des activités sportives, de la restauration le temps d'une parenthèse bien méritée. Renseignements et réservations au 05 46 39 77 30. Club Med, venez vous étonner.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de cette première grande hebdo de la saison, nous allons recevoir dans une poignée de secondes les Frangines. Le duo de chanteuses sera avec nous et nous dira tout sur ses projets. On parlera également de l'album Note, bien évidemment. Coup de cœur télé consacré à Fille du Feu qui démarre ce soir sur France 2. À cette occasion, la réalisatrice Magali Richard Serrano et une des sorcières basques incarnées par Annabelle Lopez seront avec nous pour en parler. Il a fait son arrivée il y a un mois dans Demain nous appartient. Laurent Gamelon va tout nous dire sur le rôle du frère, évidemment, de Luce Mouchel dans la série de TF1. Frédéric Bourali fait son grand retour ce soir dans Scène de ménage sur M6. Il sera notre invité exceptionnel. Et puis en fin d'émission également, nous recevrons toute la troupe de la pièce de théâtre Pour le meilleur et pour le pire qui tourne partout en France tout au long de l'automne. À cette occasion, Rebecca Hampton, mais aussi Boudère seront nos invités, ou encore Audrey Garcia. À ne pas manquer, vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Nos invités, elles s'appellent les Frangines, elles cartonnent partout en France, elles ont été certifiées disques d'or. C'est un parcours sans faute depuis maintenant quelques années pour Jacinthe et Anne qui sont avec nous. Bonjour à toutes les deux, c'est la première fois en plus dans Chute, on écoute la télé.
Salut Alain.
Salut Alain.
Merci d'être là, ça me fait super plaisir de vous avoir parce que vous passez sur énormément de radio aujourd'hui et c'est ce que je disais, un parcours sans faute depuis ce début. C'est assez incroyable ce qui vous est arrivé, le succès est tombé quand même assez rapidement finalement.
Bah oui non, parce qu'en fait on a quand même eu le temps de se préparer, en fait ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on sortait de, on était sortis de notre chambre pour jouer, pour sortir des chansons et tout. Donc c'est arrivé, on a eu de la chance, c'est vrai, mais je pense que c'est arrivé, enfin je trouve que c'est arrivé au bon moment en fait.
Au moment où il fallait.
Ouais, c'est vrai, on a eu un peu le temps de se préparer, mais c'est vrai qu'il y a une chanson qui a plus marché que les autres, et du coup, on a eu l'impression d'arriver comme ça sur la scène, mais comme il y avait quelques petites, des mois de préparation avant avec notre label, ça a été en douceur pour nous.
La belle histoire a commencé, vous aviez 12 ans. Si je me trompe pas.
C'est ça. On avait 12 ans, on était au collège, et on s'est rencontrés sur les chemins de l'école.
C'est incroyable ça. Et il y en avait qu'une qui était vraiment passionnée par la musique, je crois, sur les deux.
Non, on aimait bien toutes les deux déjà chanter, on aimait bien toutes les deux de la musique, enfin de la musique, je pense. Enfin, en tout cas, la musique à écouter. C'est juste que moi, j'en faisais au conservatoire, je faisais de la flûte avec. Et en fait, la guitare, c'est venu un peu plus tard. On s'est mis toutes les deux indépendamment l'une de l'autre, et du coup, avec la guitare, l'écriture et tout ça.
Bon, c'est en tout cas une belle histoire. On le disait toutes les deux, c'était une évidence de créer ce duo, ouais, des Frangines, parce que vous vous considérez un peu comme des sœurs finalement toutes les deux, donc ce nom a été une évidence.
Ouais, le nom a été trouvé assez facilement.
Nom on l'a pas trouvé tout de suite, tu vois. On a un peu erré.
On hésitait entre plusieurs, mais il est quand même venu assez naturellement.
Assez rapidement.
Et puis on est vite revenu vers lui quand on s'est dit vas-y, on essaie autre chose et tout. Non, quand même.
Le nom était assez évident et nous correspondait. Ouais. En fait, on est super copines depuis qu'on a 11 ans. On avait une amitié, c'est vrai, qu'on a 11 ans, une amitié qui est assez quand même unique, quoi. Qui a traversé aussi plein de moments, hein, pas toujours facile, mais en tout cas qui, oui, je pense qu'elle est forte quand même.
Et puis il faut être fort, il faut qu'elle soit forte cette amitié pour toutes les deux, parce que quand on traverse une carrière comme vous êtes en train de faire, avec la notoriété que ça amène aussi, faut que ça amène quand même une certaine force malgré tout.
Ouais, c'est clair, et je pense qu'on se retrouve justement sur quand même un socle hyper commun, parce qu'on a presque grandi ensemble. C'est pour ça que Frangine, ça nous va bien, parce que je pense que dans plein de choses on se ressemble, on a eu un peu la même éducation, enfin du coup je pense qu'il y a des choses qui naturellement on peut se comprendre et ça aide dans ce milieu qui est pas toujours facile où on est on dort à droite à gauche, enfin on peut perdre vite fait ses repères quoi, et donc là le fait d'être à deux c'est incroyable quoi, on a beaucoup de chance. Et même si c'est pas facile, je pense qu'on a quand même une relation assez solide pour traverser ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident hein.
Alors notre deuxième album, alors le premier était, on disait, certifié disque d'or, c'est assez dingue. Et puis le deuxième, de platine, 50 000, plus de 50 000 exemplaires vendus, c'est 100 000. Non mais c'est là. Non mais attends, c'est la classe. Vous les avez compté une à une, vous les avez compté une à une ou quoi?
Non. Je t'avoue, je sais que c'est au-dessus de 100 000. Je sais pas franchement te dire le chiffre, mais comme c'est quand même incroyable et qu'on est trop fiers. Quand même, faut le dire.
Vivre un truc comme ça sur un premier album, c'est juste fou.
Ouais, on a beaucoup de chance.
Ah oui. Non, c'est clair. Franchement, c'est une belle reconnaissance. Nous, on est trop, surtout, ce qui nous rend hyper heureux, c'est que nos musiques puissent toucher les gens. Et les retours qu'on a des gens sont vraiment trop touchants. Et c'est surtout ça, je pense, qu'on cherche dans notre chanson. C'est à apporter, à faire du bien, en fait. Et je pense que ça vaut encore plus que la platine.
Même pour le label qui nous fait confiance, on est trop heureuse de leur apporter ce truc-là. C'est trop bien, quoi.
Alors le deuxième album s'appelle Note, on va en écouter tout de suite un petit extrait, lequel vous avez envie de faire partager à nos auditeurs maintenant. Les filles, je vous laisse choisir.
Parce que là tu poses la question à deux personnes.
Un petit rappelle-toi, parce que c'est...
Allez, très bien, en hommage
à notre public, aux gens qui nous ont aidés, ça, c'est un bon condensé de notre histoire.
Moi, c'est vrai. On l'écoute maintenant, Les Frangines, ça s'appelle Rappelle-toi, et on revient juste après avec vous. Jacinthe et Anne, Les Frangines sont nos invités aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite. Ce premier extrait de note qu'on vient d'écouter, on va en écouter un deuxième. Hein. Ça c'était Rappelle-toi, et je vous laisse aller quelques petites minutes pour choisir le deuxième dans votre tête. On va parler de cet album Note. Comment vous l'avez conçu, réalisé, pensé? Avec qui vous vous êtes un peu accompagné, en tout cas sur cet album, les filles? Racontez-moi.
Alors cet album, il a été beaucoup conçu chez nous quand même, parce que c'est beaucoup de chansons qui viennent du confinement. Donc chacune chez soi, et puis après qu'on a mis en commun. Donc il y a beaucoup de chansons où c'est toutes les deux, et on a collaboré avec deux réalisateurs qu'on aime beaucoup, qui s'appellent Hugo Lab et Jules Giaconelli, qui ont réalisé donc les arrangements. Voilà, on l'a fait tous les quatre. On était dans un studio, c'était super sympa. Et puis il y a quand même deux chansons qu'on a co-écrites et co-composées avec Sylvain de Boulevard Désert. C'est la chanson Note qui donne le nom à l'album. Et puis C'est pas ta faute avec Vianney, parce qu'on trouvait que la première expérience était quand même super bien passée avec Donne et moi, et la deuxième aussi ensemble. Et du coup c'était un peu évident sur cet album de l'inviter encore une fois à écrire avec nous.
Vos anges gardiens dans ce métier, c'est qui? Est-ce que Vianney en fait partie, par exemple?
Ah ouais, je pense que franchement, ouais, on peut dire ça. Il nous a pas mal aidé, il nous a beaucoup donné des conseils, même dans la musique, c'était génial de pouvoir faire ça ensemble. Je pense que ça nous a clairement aidé aussi dans la chanson de Donnez-moi. On l'a vraiment fait à trois, mais je pense que ça nous a porté chance, entre guillemets. Et puis, je crois, notre producteur aussi. Seb, c'est vraiment quelqu'un d'hyper bienveillant, à qui on fait vraiment beaucoup confiance. Et ça, c'est vrai que c'est ouf de pouvoir bosser avec des gens, avec quelqu'un dans le milieu. Je pense que c'est pas si fréquent et vraiment vraiment ouf. Donc ça, c'est précieux. Qui on a d'autres comme ange gardien? Je pense qu'on est un peu l'une pour l'autre aussi, d'ailleurs. Enfin, le fait d'être deux. Ouais. Et après, on est entouré. Voilà, on est entouré quand même. On est très bien entouré. Enfin, là sur la tournée, c'est super. Enfin, on a une très bonne énergie, une très bonne team. Et ça aide aussi. C'est cool.
Alors, l'album Note est sorti maintenant il y a un petit peu plus d'un an. J'imagine que le troisième est peut-être déjà en route, en tout cas vous y pensez, ou qu'il va même peut-être bientôt arriver. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Et ben effectivement, il va bientôt arriver. Il est quasi fini. C'est pas trop prévu en vrai qu'on le fasse aussi vite. Je sais pas à quoi ça s'est joué, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu de temps en juin pour le faire. Donc vous verrez, c'est un album un peu original. On ne peut pas vous en dire plus, mais ça arrive très vite.
2024 plutôt? Ou d'ici fin 2023 peut-être bien même.
On aimerait bien d'ici fin 2023. Mais c'est vrai que c'est un album qui va être assez inédit un peu. Et nous, on en est hyper fiers. On l'a quasiment fini de l'enregistrer. On revient un peu aux sources dans cet album. Et on espère que ça va plaire au public. Mais on n'a pas trop de doutes.
Il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui vous rêvez de collaborer, avec lesquels vous n'avez pas collaboré encore aujourd'hui?
C'est marrant parce qu'on y réfléchissait tout à l'heure. On disait s'il y avait un artiste et tout, c'est pas limpide. On se dit pas, tiens, il y a un artiste qu'on kifferait, on est tellement content d'être les frangines nous-mêmes. Non, je déconne. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Mais en fait, il y en a beaucoup avec qui on aimerait bien. Et mais nous, ce qu'on kiffe avant, alors il y a plein de styles qu'on adore, il y a plein d'artistes qu'on adore. Mais ce qu'on aime aussi dans la chanson, dans les feats et tout, c'est vraiment la rencontre. C'est-à-dire que si un artiste avec qui, tu vois, je sais pas, je pense à Benabar là.
Ouais,
moi, c'est vraiment un gars. Enfin, on trouve qu'il est trop sympa. On aime ce qu'il fait, puis on aime sa chanson, sa musique.
Ouais, Claudio Capeo, pareil. On a fait toutes ses premières parties. On a un petit peu fait de musique avec lui, et c'est vrai que on s'entend super bien. Donc voilà, ça pourrait être ça. Peut-être plus un mec, parce que comme on a deux voix déjà de filles, peut-être que plus un gars, ce serait plus joli en trio. Sinon, trois voix de filles, peut-être un peu.
Mais par exemple, un trio avec Zaz, moi je suis chaud. Je prends direct. Hein.
Ouais, non, c'est vrai. Pourquoi pas en fait deux filles aussi.
Ouais,
c'est vrai que c'est sympa aussi. Non, franchement, on est hyper. En fait, on trouve ça trop cool, la musique pour ça. Donc, n'importe qui, même si on n'a pas du tout le même style et tout, on adore. On trouve ça marrant.
Non, on s'était dit que ce serait sympa de faire un duo avec un rappeur.
Ouais.
Justement, pour la rencontre et pour. Nous, on croit vraiment qu'en fait, c'est pas parce qu'on fait pas le même genre de musique ou qu'on est différent dans la vie qu'on peut pas bosser ensemble, qu'on peut pas s'aimer, mais juste pas se tolérer en fait, juste s'aimer, se rencontrer. Ouais, on est dans une société, dans une culture où on se tolère, on s'oppose, on a peur de la différence. On parle beaucoup de vivre ensemble, mais en fait, aujourd'hui, on vit plus trop ensemble. On vit les uns à côté des autres, et ça, on trouve ça trop dommage. Nous, et c'est un message qu'on aimerait porter vraiment. Et qu'on essaye de
faire quoi avec les albums et les belles chansons que vous avez en tout cas à nous offrir. Il y a pas de raison. Juste avant de terminer de choisir justement ce titre, quels sont les plus beaux compliments et les plus beaux témoignages du public qui vous ont le plus touché, qui vous ont le plus marqué? J'imagine qu'il doit y avoir des rencontres assez exceptionnelles à chacun de vos concerts, mais est-ce qu'il y en a un qui reste particulièrement?
Une notamment. Enfin, il y en a plusieurs quand même. On reçoit quand même des messages qui sont hyper touchants. Moi, je crois que j'avoue que les messages qui me touchent le plus, c'est des gens qui sont en galère et où t'as vraiment l'impression que nos chansons les aident, et c'est là que tu te rends compte que notre musique nous dépasse, même nous en fait. Et ça, je trouve ça vraiment stylé, se dire qu'on a juste une chanson à un moment donné qui en fait est en train d'aider quelqu'un qui traverse une épreuve ou un moment pas facile, et que tu sens que c'est sincère, quoi, ça l'aide vraiment. Bah franchement, moi j'avoue, ça me touche trop.
Méga touchant.
Ouais.
Des vidéos parfois de mariage aussi où ils ouvrent une valse sur
une de vos chansons.
Ça c'est trop chou. On a eu aussi des enterrements où avec Demain des Laubes, ils utilisaient Demain des Laubes comme chanson de départ. C'est super émouvant. Des messages de gens, ouais, effectivement, qui traversent des choses difficiles ou au contraire des moments très joyeux. Enfin, je trouve ça beau de savoir qu'on peut accompagner les gens dans ces moments-là juste avec une musique. Mais en fait, c'est vrai que moi je me rends compte en écoutant de la musique que parfois ça m'aide.
Ça transporte.
Ouais, ça me transporte. Je me dis, c'est trop beau, on partage tous un peu parfois les mêmes émotions, les mêmes sentiments sans se parler à travers une chanson. Enfin, moi je sais que la musique m'a beaucoup aidée, donc c'est chouette si jamais à notre toute petite échelle on peut aider aussi ou rassembler ou juste faire passer des messages cool, marrants. Enfin voilà.
Je crois que c'est le dénominateur commun de ce métier, c'est clair. Oui. On est là pour ça, tous. La radio en fait partie aussi, bien sûr, les filles. En tout cas, voilà, on est très très fiers de vous avoir pour cette rentrée avec nous. On va écouter un deuxième extrait de cet album Note, lequel vous avez envie de nous faire partager du coup maintenant. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir?
Du coup, on s'est dit, ouais, on a eu le temps de réfléchir. On a brainstormé et on s'est dit, bah du coup, mon fils, peut-être parce que voilà, on est toutes les deux devenues maman et donc c'est.
C'est une chanson qu'on adore chanter en concert, qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, quoi.
Et ben on va l'écouter. Ça s'appelle Mon Fils, extrait de l'album Note des Frangines, toujours dans les bacs. Troisième album bientôt. On en reparlera bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas. Jacinthe et Anne, les Frangines. Ensuite, on écoute la télé. À très vite.
Merci Alain.
Salut Alain. Merci beaucoup.
Oui, promets-moi mon fils que les dégâts, les vices ne resteront pour toi qu'un lointain nuage. Oui, souviens-toi la vie. Si tu lui souris, changera tes départs et te rendra l'espoir. Oh, si je pouvais faire quelque chose, si je savais faire pousser des roses dans des champs de pierre, faire pleurer le ciel au milieu du désert.
Allez, on bouge pas dans un instant. On revient, on parle de Filles du Feu avec Magali Richard Serrano, Annabelle Lopez. On va parler de Scènes de Ménage également avec Frédéric Bourali et avec Laurent Gablon de Demain nous appartient. Puis la pièce pour le meilleur et pour le pire en fin d'émission. Alors bougez pas, tout de suite.
Bonjour.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Moi, chaque semaine, j'écoute Alain Jeanne dans Chut, on écoute la télé.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Notre coup de cœur télé est consacré à Fille du Feu qui va démarrer ce soir sur France 2 avec sa réalisatrice qui est avec nous, Magali Richard Serrano. Bonjour Magali.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un pan méconnu un peu de l'histoire du Pays Basque pour la France entière, on va dire en quelque sorte, que cette chasse aux sorcières qui a eu lieu dans le début des années 1600, c'est ça que va raconter Fille du Feu et vous allez mettre en avant dans cette mini-série, hein, Magali.
Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, elle est pas connue sur le territoire national, mais elle est très connue au Pays Basque. J'étais étonnée de savoir à quel point les jeunes, les enfants, les vieux, tout le monde connaît l'histoire de Pierre de l'Ancre et cette chasse aux sorcières est encore très vivante là-bas.
Ah, c'est assez voilà. Incroyable, justement, qu'en France, ça n'a pas traversé un peu, justement, les frontières du Pays Basque, mais là, ça va permettre de mettre en lumière cette histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie, en tout cas, de mettre l'histoire de cette chasse aux sorcières qui a été initiée par Pierre de l'Ancre à l'époque?
Alors bon, bah déjà, moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse aux sorcières à titre personnel, donc que j'avais déjà écrit une première série qui se passait en 1492 dans une autre chasse. Mais ce qui était beaucoup plus puissant sur l'histoire de Pierre de l'Ancre, c'est que bah déjà c'est un juge qui avait été envoyé par le roi Henri IV, et c'est aussi toute la dimension du Pays Basque, cette terre avec ses paysages incroyables, avec cette culture très forte. Donc c'est vrai que l'histoire de choisir cette chasse au Pays Basque particulièrement, c'était vraiment pour s'inscrire dans ce territoire-là, pour s'inscrire dans ces croyances-là. Alors la langue, malheureusement, on n'a pas pu beaucoup avoir de basque, mais moi j'ai essayé, j'ai tenu à ce qu'il y ait quand même des mots en basque, qu'on soit à l'écoute de cette culture-là.
Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est la qualité de la lumière, de la photographie. Il y a un travail esthétique, en tout cas, pour nous plonger dans l'époque, qui est remarquable, je trouve. Et ça, c'est vraiment important sur des fictions d'époque comme ça, de pouvoir travailler sur ce domaine-là, qui est le domaine peut-être le plus important, justement, quand on réalise une fiction comme celle-ci.
Ah bah, c'est vrai qu'on a pris grand soin à la lumière. Je tiens à citer mon chef opérateur Thomas Le Rebourg qui fait un travail très délicat, qui travaille dans la facilité, dans la rapidité. C'est vrai qu'on voulait une série qui soit belle et lumineuse pour raconter une histoire finalement assez sombre. Voilà, moi c'est vrai que ce qui m'intéresse toujours dans la mise en scène et dans le travail de la lumière, c'est de chercher quelque chose d'assez solaire, d'assez beau et de contraster pour pouvoir créer du contraste, que tout n'aille pas forcément toujours dans le même sens.
Eh bien, en tout cas, c'est réussi. Comment ça démarre? Pour ceux qui auraient raté peut-être aller les 2-3 premières minutes, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme angle d'attaque pour leur donner envie de regarder, là, nos auditeurs, Magali?
Eh ben, je dirais un petit village de pêcheurs où il y a une espèce d'harmonie comme ça entre les hommes, les femmes, les milieux sociaux. Et puis, les hommes partent à la chasse à la baleine, comme tous les ans. Et là arrive le juge Pierre de l'Ancre avec son armée. Et ils vont s'abattre, en fait, sur cette région, cette petite région du Labour. Et ils vont s'en prendre aux femmes. Et elles vont devoir se débrouiller par elles-mêmes, en fait, pour résister à cette oppression.
Est-ce qu'il y a une petite anecdote à nous raconter sur le tournage? Quand on est réalisateur, il faut toujours trouver des fois des parades ou des choses qui peuvent arriver à des moments où il y a toujours des imprévus, finalement.
Alors, j'avais des acteurs qui étaient tous extrêmement concernés par le sujet et très incarnés dans leur personnage. C'était vraiment, je crois que c'est la première fois que j'en étais à ce degré-là. Peut-être la consolation, parce que le sujet aussi était très fort.
Ouais, avec Flavie Sermon.
Mais là, vraiment, voilà, tous les acteurs étaient vraiment très très impliqués. Et moi j'aime vraiment travailler en collaboration, mais des fois il se trouve que tous avaient une idée tellement précise qu'il fallait mettre ensemble toutes ces idées-là pour que tout le monde joue ensemble. Mais c'était très amusant, des fois c'était il fallait discuter, palabrer avec les acteurs pour que tout le monde puisse jouer sa partition. Et moi je suis comme un chef d'orchestre. Voilà, il n'y a pas que des solistes, il faut que parfois il y a des moments d'orchestre.
Bon.
Donc c'était un peu ça.
C'est génial quand c'est comme ça. On va en parler justement de cette alchimie sur le tournage avec Annabelle Lopez qui va nous rejoindre, qui incarne une des sorcières justement. Jeannette, peut-être la plus réfractaire de toutes. On va en parler avec elle justement dans quelques instants. Merci beaucoup Magali d'avoir été avec nous. On va écouter la bande-annonce Fille du Feu, c'est ce soir à 21h10 sur France 2, juste après Un si grand soleil. Ne ratez pas les deux premiers épisodes de votre fiction événement de la rentrée. En plus, on va apprendre plein de choses puisqu'on rappelle que c'est inspiré de faits réels. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller y voir. Et puis juste après la bande-annonce, c'est Annabelle Lopez qui nous rejoint, qui incarne Jeannette, qui va être avec nous. Alors surtout, restez là. Merci beaucoup Magali, à très vite.
Merci à vous.
Pierre n'est pas seulement juge, c'est aussi un grand spécialiste des sorcières.
Qui va mourir ?
Si on ne les élimine pas toutes, le Pays Basque restera un pays d'arriérés et ingouvernable.
Mais vous voulez quoi ? Vous voulez qu'on vous dise qu'ici, on fabrique des tartes avec du sang de nouveau-né ?
J'en peux plus de devoir me cacher pour faire le bien.
Fille du feu, ça démarre ce soir, hein, vous le savez, sur France 2, c'est la série événement de cette rentrée, c'est une des héroïnes qu'on va avoir avec nous, avec grand plaisir, Annabelle Lopez qui est là. Bonjour Annabelle.
Bonjour Alain.
Et qui incarne Jeannette sur une histoire voilà totalement incroyable. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, Annabelle, est-ce que vous aviez eu vent de cette histoire ? Est-ce que vous êtes documentée ? Comment vous êtes préparée en tout cas sur ce rôle, puisque c'est inspiré de faits réels qui se sont passés au début des années 1600 ?
Tout à fait. Donc ça se passe en 1609 au Pays Basque. Et en fait, non, je n'avais pas, je ne connaissais pas ce pan d'histoire. Ce qui est une des raisons qui m'a d'autant plus intéressée, c'est que c'est vrai qu'on a une image de la chasse aux sorcières un peu romancée et qu'on a peu finalement d'épisodes assez concrets dans notre imaginaire. Et là, on parlait de femmes du peuple qui avaient vraiment vécu ça de manière totalement concrète. Et on donne une image des sorcières qui est beaucoup plus concrète, je trouve, que ce qu'on a dans l'imaginaire, c'est-à-dire des femmes qui connaissent les plantes, qui connaissent l'anatomie, qui ont une certaine place et un certain pouvoir dans la société. Et donc oui, bah, comme tout le monde, j'ai lu hein, sur le contexte historique, et puis des ouvrages de démonologie qui ont été écrits par notamment Pierre Delancre, qui est le juge, comme vous le verrez dans la série, se donne comme mission de brûler ces femmes qu'il pense sorcières.
Ah, il est terrifiant, hein, Bruno de Brandt, hein. Clairement.
Oui, il est super.
Ah ouais, ceux qui l'auront vu dans Cain, dans son fauteuil roulant, vous allez voir que ça change totalement et qu'on a grand plaisir de voir Bruno dans un rôle tellement différent là.
Tout à fait. Je pense que ça a été aussi un plaisir pour lui, même si c'était pas facile à porter. Enfin, je pense que pour tout le monde, ça demandait une implication émotionnelle assez forte.
Alors, tournage sur le Pays Basque, en grande partie du côté de Saint-Jean-de-Luz. Qu'est-ce que vous en gardez en tout cas comme grand souvenir, Annabelle ?
Ça a été un véritable plaisir pour moi de travailler au Pays Basque, d'avoir été accueillie par les Basques. Toute l'équipe de la régie, mais aussi les figurants, étaient basques. On a fait des rencontres incroyables. Tout le monde avait envie de partager son histoire avec nous. Il y avait en même temps une fierté et une humilité. Et puis la région est absolument magnifique.
Les paysages sont filmés, c'est incroyable.
C'est incroyable. Et moi, je trouve, en ayant regardé un peu les images, on dirait que c'est faux tellement c'est beau. Or, tout est absolument tel quel, quoi. Le directeur de la photographie a vraiment tout utilisé. C'est absolument magnifique.
Ah, il y a un directeur de la photo, il y a la lumière, tout est vraiment orchestré de main de maître. Comment on pourrait définir Jeannette, Annabelle ?
Alors, Jeannette, c'est l'aînée d'une fratrie, c'est l'aînée de trois sœurs. C'est celle qui est... censé entre guillemets reprendre le rôle de sa mère qui était un peu la sorcière de sa communauté, et par sorcière de nouveau j'entends la sage-femme mais aussi celle qui connaît les plantes, celle qui guérit, celle qui est totalement au service de sa communauté. Et au départ, Jeannette, elle refuse complètement cette responsabilité. Vous découvrirez pourquoi dans la série, mais elle pense que elle est mieux en étant plutôt rangée, en étant au service de ses enfants et de son mari.
Ouais, elle pense que ce et pouvoir puis, est plus un problème qu'autre chose hein, pour elle. Le pouvoir de sa mère, c'est plus...
Tout à fait.
On le ressent chez elle.
Ça représente un danger, en fait.
Ouais, exactement.
Voilà, sortir du lot représente un danger. Avoir une responsabilité représente un danger. Et donc, elle essaie à tout prix, mais comme beaucoup d'entre nous, je pense, de faire le bien dans son petit coin et de ne pas sortir du lot. Surtout qu'elle ne soit pas... trop vue et reconnue par tout le monde. Et petit à petit, à cause de cette tragédie, elle se transforme et se redécouvre et se révèle à elle-même et aux autres, en fait. Donc c'est vraiment, Jeannette, c'est l'histoire d'une transformation. C'est l'histoire de quelqu'un qui ose enfin prendre sa place au sein de sa communauté. C'est quelqu'un qui ose prendre ses responsabilités, qui se reconnecte à son désir et à qui elle est véritablement.
Ben voilà, si vous avez envie de voir cette évolution, en tout cas, c'est ce soir, à partir de 21h10, le lancement de Fille du Feu. Est-ce qu'il y a un souvenir particulier de tournage à nous raconter, Annabelle ?
Oh mon Dieu, il y en a tellement.
Mais j'imagine bien, dans des décors en plus tous aussi beaux les uns que les autres, décors naturels, avec un casting
tout à
pareil,
fait.
Ça doit être
avec
difficile.
Avec un casting absolument génial, j'ai adoré tous les autres acteurs avec qui on a eu des relations très fortes. Je pense que c'est ça que je retiens, c'est le fait que tous les acteurs et toute l'équipe avaient conscience de l'importance de ce qu'on racontait, et donc tout le monde était très impliqué professionnellement et émotionnellement dans le désir de faire quelque chose de vraiment qualitatif et de beau. Et donc voilà, c'était un honneur pour moi de participer à cette grande aventure.
Bon, on va découvrir ça ce soir. C'est le lancement des deux premiers épisodes. Il y aura trois soirées qui vont être proposées pour Filles du Feu. Alors évidemment, au casting, Lizzie Brochéré, Bruno oui. Debrandt, Zoé Adjani. Enfin bref, c'est voilà totalement hallucinant. Vous allez voir avec une image magnifique. Et ça démarre ce soir, juste après Un si grand soleil, à 21h10. Annabelle, on va terminer par vos projets. Est-ce qu'on va vous voir dans d'autres choses, au cinéma ou à la télévision, que Filles du Feu dans les mois à venir?
Oui, tout à fait, mais il y a un projet là qui arrive dont je ne peux pas encore parler, donc ce sera la surprise, bien que j'espère pouvoir vous dire.
Pour télé, plateforme, théâtre, vous pouvez nous en dire juste ça ou pas?
Non, ce sera plutôt à la télé.
Bien, et eh bien on va suivre ça, on reste en contact du coup.
Super, merci.
Merci beaucoup Annabelle Lopez qui était avec nous pour Filles du Feu ce soir, 21h10 sur France 2. À très bientôt, merci Annabelle.
Attitude. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va fêter le grand retour de Scène de Ménage pour cette rentrée. Quel plaisir de retrouver votre série, même si en famille, a largement tout l'été repris le flambeau. Mais évidemment, on va retrouver tous vos couples préférés pour une rentrée saut de tension. Et puis, un bel hommage évidemment à Marion Gamme qui nous manque terriblement. Frédéric Bourallier, notre invité aujourd'hui. Bonjour Frédéric.
Bonjour tout le monde, content de vous retrouver.
Merci d'être avec nous, Scène de Ménage. Je sais même plus, on est à 15e saison, 14.
Ouais.
C'est incroyable.
Oui, enfin, alors c'est très rigolo parce qu'il y a trois semaines, on tournait avec Valérie. Et à un moment donné, la prod est rentrée sur le plateau pour interrompre le tournage et a chanté Joyeux anniversaire. On s'est dit, tiens, il doit y avoir quelqu'un, un technicien sur l'anniversaire, etc. Et puis pas du tout. Ça correspondait exactement au premier jour de tournage, il y a 14 ans. Et en fait, ils ont filé la feuille de service de ce jour-là. Et le premier couple qui avait c'était pas l'un des trois couples. Il y avait Gérard et Marion, il y avait Audrey Lamy et Lou, et il y avait Valérie et moi. Et le premier couple qui avait tourné ce jour-là, c'était Gérard et Marion. Et donc, on a la feuille de service du premier jour de tournage il y a 14 ans, de Scène de Ménage. Donc, c'était très émouvant. Donc, on a fêté ça, bien sûr. Et on a tourné toute la journée. C'était super.
Mais c'est clair que c'est un succès qui se dément pas. Et c'est une série qui est rentrée vraiment dans le cœur des Français aujourd'hui, qu'ils ont plaisir à retrouver chaque année avec des nouveaux couples, avec des nouveautés. On a Patrick Préjean qui va rejoindre Gérard Hernandez également pour cette rentrée. Et c'est vraiment un succès qui se dément pas, cette fidélité du public. Et toi, tu fais plein de choses en plus à côté. Il y a du théâtre, il y a d'autres séries. Mais t'arrives à encore retrouver le temps de dormir, Frédéric?
Non. Non. Enfin, si, mais c'est compliqué. Enfin, surtout, je joue au théâtre en ce moment à Paris depuis 6 mois, là, maintenant. Où je suis très, 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 très heureux sur scène. Une pièce qui s'appelle Ave César avec Christelle Reboul. Et alors, des fois, quand je tourne la journée, Scène de Ménage, et je joue le soir au théâtre, ça pique un peu. Mais alors, vous savez, quand je dis ça, on va bien mettre les choses au clair. Je ne me plains pas. J'ai bien de la chance de faire ça. Il y a une phrase entre nous, quand on se dit, des fois, quand on travaille, on dit, mon Dieu, faites que j'ai des problèmes de date. Ce qui veut dire que quand on a ces problèmes-là, c'est des problèmes de riches. J'ai beaucoup de chance d'avoir ces problèmes-là. Bah ouais, j'ai beaucoup de chance de pas avoir le temps de tout faire. Avec les copains, bah je les darons à partir du 14 septembre, on part en tournée.
Génial, jusqu'à fin octobre, vous avez passé partout dans les plus beaux théâtres de France.
Ouais, c'est des trucs énormes. Hein. C'est le producteur des Baudins, donc c'est un énorme producteur qui adore le spectacle.
GN Production, pour le citer.
Bravo, bien joué. De novembre à décembre, je vais jouer, je reprends Ave César. Que j'ai joué donc il y a quelques mois à Paris là, qui était un énorme succès. Donc on joue pendant 2 mois là et après on part en tournée dans toute la France le spectacle. On fait 80 dates jusqu'à juin 2024. Et après je pense que je vais en EHPAD directos, hein, je pense.
Mais non, franchement, ce couple que tu joues avec Valérie Garcenti, alors les auteurs évidemment vous êtes beaucoup à vous renouveler, mais vous faites comment pour vous renouveler tous les deux dans votre approche, dans votre façon d'incarner José et Liliane?
C'est un travail collectif, il se trouve que c'est une production, j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est une production royale, c'est la seule en France qui est comme ça, il se trouve que nous, c'est nous qui choisissons nos textes, c'est-à-dire que les 20 auteurs, 20 ou 25 auteurs écrivent des sketchs pour tous les couples, hein. C'est pas que pour nous, mais... Donc par exemple, il y a 3 jours, jours, on a lu une centaine de textes. On le fait en visio en ce moment. On a lu une centaine de textes. Et sur 100 textes, on en garde que 20. C'est assez radical comme, comme truc. En plus, sur les déchirures avec Valérie, on aime bien quand c'est parfait, au mieux, quoi. Alors après, on peut discuter la perfection. Et puis, la semaine dernière, on a fait un truc génial qu'on fait tous les ans. Et c'est ça qui est fort. On fait des séminaires. C'est-à-dire que là, on se trouve dans un endroit, genre un château loué, etc., comme font les entreprises. Là, il y a tous les auteurs, tous les acteurs, tout ça. Et on décide quel est le sujet principal qu'on va faire l'an prochain. C'est comme ça qu'on avait décidé entre nous, dire, et tiens, si José devenait maire. C'est comme ça qu'on avait décidé. Et après, les auteurs avaient écrit pendant toute l'année. Alors, pas que pour ce sujet-là, mais toute l'année sur la campagne, etc. Après, on avait fait un autre séminaire, et d'après, en se disant, est-ce qu'il est élu, est-ce qu'il n'est pas élu? On sait pas. Alors, il y avait plein d'arguments vachement intéressants, oui et non. On a décidé que oui, quand même. Et on a fini par dire qu'il serait élu à une voix, c'est la voix de Tata Odette, d'André Damant, qui est décédé cette année, malheureusement. Et voilà. Et donc, là, on vient de faire un séminaire encore. Alors, je vous dis pas ce qu'on a choisi. C'est top secret. On a trouvé plein d'idées qui nous ont fait beaucoup, beaucoup rire avec Valérie sur ce qui va nous arriver l'an prochain.
Oui, en 2024. Donc, effectivement, il y a un petit peu le temps.
Et ça, c'est merveilleux parce que c'est vraiment une entreprise collective. C'est-à-dire que les auteurs écrivent pour nous. Nous, on travaille pour, enfin, on, voilà. Et puis, ils écrivent en fonction de notre nature, de comment on aime travailler, ce qui nous fait rire ou pas. Donc, ça, c'est extraordinaire.
Tout le monde t'appelle monsieur le maire maintenant. Quand tu débarques quelque part, c'est assez drôle quand même.
Oui, enfin, on m'appelle tout, monsieur le maire, José, Frédéric, un peu tout, quoi. Un peu tout.
C'est génial de voir une série comme ça qui est rentrée dans le cœur des Français qu'au bout de 14 ans. Aujourd'hui, le succès est tellement fort qu'ils sont tous les soirs devant leur télé à suivre vos péripéties et vos personnages sont rentrés dans leur cœur de façon incroyable. Alors, je peux pas m'empêcher de faire un petit hommage à Marion, effectivement, Marion Gamme, qui était comédienne extraordinaire. Donc, Patrick Préjean, on va reprendre la main puisque ça va être les deux copains qui vont se retrouver avec Gérard Hernandez, justement. Mais on pense fort à elle. T'as un souvenir particulier, peut-être de tournage, même si vous avez pas partagé finalement trop de plateaux. Mais est-ce que sur des primes, vous avez eu l'occasion peut-être de vous retrouver?
Non, pas spécialement, mais je la connaissais bien parce que je connaissais surtout très très bien sa fille, Virginie Ledieu. On s'est connus en noir et blanc, hein. C'était, il y avait même pas la couleur à ce moment-là. Donc, ouais, super. Et puis, ouais, Marion, on se croit, enfin, on l'appréciait tous, quoi. C'était, puis c'était devenu un peu la mamie de, comme Gérard, la mamie de la série, quoi. Donc, bien sûr, il y avait beaucoup d'affection, tout ça. Alors, nous, on était un peu au courant de pas mal de choses. On est au courant depuis le petit moment qui était pas bien, pas en bonne santé, etc. Donc, et d'ailleurs, on tournait avec Valérie. Le jour où elle est morte, on tournait. Et on l'a appris à ce moment-là. On l'a appris le matin à 9h. J'avoue que la journée était difficile parce qu'il fallait quand même. Il n'y avait pas mieux à faire que d'être drôle. C'était le meilleur hommage qu'on pouvait lui rendre, c'est de continuer à faire les cons. Mais ça n'a pas été facile.
On pense très très fort à elle, en tout cas, va beaucoup nous manquer. Et évidemment, tout ce qu'elle a fait va rester. Et c'est ça qui est chouette. Elle reste dans nos cœurs et elle va rester, en tout cas, dans les épisodes de scènes de ménage. Et ça, c'est génial de pouvoir continuer, voilà, voir son œuvre. Elle a fait tellement de films, elle a tellement une carrière riche que voilà, où qu'elle soit, si elle nous écoute, on l'embrasse très très fort. Fred, on te retrouve. Les Darons. C'est donc à partir du 14 septembre partout en France jusqu'au 23 octobre et ça va passer dans tous les plus beaux théâtres de France. Novembre-décembre avec César. Et puis là, c'est Scènes de ménage, le grand retour pour cette rentrée qui vous attend avec une nouvelle saison inédite. Bref, on n'a plus qu'à se dire à l'année prochaine. Là.
Avec grand plaisir. Merci de votre courage de me voir au théâtre, au cinéma, à la télé. Je vais en avoir marre, hein, à un moment donné. Mais je suis très heureux.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous. À très vite. Évidemment, et puis on te souhaite bon courage pour cette année marathon qui t'attend.
Merci beaucoup, à bientôt.
Mais attends, tu leur as carrément demandé aux troupes en face là ?
Bah non, pas de but en blanc, non. Bah non. Non, on a parlé de choses et d'autres, de leur couple à trois, tu vois. Et puis discrètement, j'ai abordé le chapitre de la sexualité, puis je me suis lancée, tu vois, je leur ai demandé, je leur ai dit. Et vous êtes échangistes, parce que nous, ça pourrait peut-être nous...
Non.
Et ? Eh ben, ils ont dit oui, ils sont d'accord.
Allez, pour cette rentrée, un personnage a fait son entrée dans Demain nous appartient depuis maintenant 4 semaines. Et c'est Laurent Gamelon qui nous rejoint, qui joue le frère justement du personnage joué par Luce Mouchel. C'est Laurent Gamelon, bonjour Laurent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors ce personnage, pendant ces 4 premières semaines, on l'a découvert en tout cas au mois d'août. Déjà, arrivé dans Demain nous appartient. Comment ça s'est fait cette histoire? Raconte-nous.
Bah, ils m'ont proposé de devenir un personnage récurrent. Je pense qu'ils avaient à la fois besoin de faire un peu moins de jeunisme. et d'avoir des gens peut-être un peu plus âgés et d'amener de nouveau un peu une touche de comédie. Donc ils ont eu cette idée de créer un personnage qui est le frère de Marianne Delcourt et qui est un peu à l'opposé d'elle d'un point de vue du caractère, ce qui évidemment crée un peu des tensions, et d'autant plus qu'il a acheté une maison à 7, mais qu'il faut y faire des travaux, donc sa sœur est obligée de l'héberger.
Et ça a amené des situations bien cocasses qu'on a vues évidemment dans ce mois d'août. Alors c'est justement là, je voulais y venir, c'est complètement les opposés au niveau du personnage. Parce que Marianne, elle est un peu psychorigide, un peu avec du sang quand même. Alors lui, plutôt quand même zen, tranquille, non ?
C'est un épicurien, c'est quelqu'un de débonnaire qui aime la vie, qui aime rire, qui aime boire, qui aime manger, qui aime rire, qui est assez positif. Et donc en ça, il est effectivement un peu à l'opposé de sa sœur. Donc ça frite entre eux. Et puis pour surinfecter le tout, le mari de Renaud, le mari de Marianne, apprécie son beau-frère. Donc ça l'a fait d'autant plus chier.
Bah oui, j'imagine, ça doit amener des scènes très drôles. Est-ce que vous avez des fous rires aussi sur le tournage, du coup, un petit peu ensemble, parce que Luce Mouchel est quand même réputée pour avoir des fois quelques fous rires, d'être un peu un bout en train sur un tournage.
Oui, mais elle est très studieuse. En tout cas, on s'est totalement trouvé d'un point de vue de la comédie. Et à titre personnel, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On s'est tout de suite, j'allais dire entendu, mais c'est plus fort que ça. Je pense qu'on fait partie de la même famille d'acteurs.
C'est une actrice extraordinaire, ça c'est clair.
C'est une actrice extraordinaire, elle a des capacités de jeu énormes, elle a le sens de la comédie. Voilà, alors son personnage n'est pas très drôle, dans la vie elle est très drôle et on s'entend très bien.
Bon, alors... On a vu effectivement des arches autour avec Renaud dans la série, mais ce qui est bien, c'est que justement on développe d'autres personnages autour du personnage de Marianne. Et c'est ce que tu disais à l'instant, du coup ça met un peu plus, et un peu moins de jeunisme, mais ça met un peu plus les personnages de plus de 50 ans à l'honneur du coup.
Oui, c'est ça, puis je crois que les comédiens qui sont des quadras, des quinquas et des sexas dans cette série avaient besoin aussi qu'on remette des personnages de ces générations-là, parce que là, il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup d'histoires autour des jeunes, et donc ils avaient besoin de rééquilibrer un petit peu les choses.
Quand c'est arrivé, alors, on t'a vu évidemment dans Clem, on t'a vu dans plein de séries différentes, mais là, c'est ta première quotidienne, il me semble, si je me trompe pas. Au niveau du rythme, est-ce qu'on s'y fait assez facilement quand on n'a jamais fait une quotidienne ? Est-ce que ça va assez vite, l'adaptation ?
Les choses sont pas très différentes dans le rythme de tournage que sur une série comme Clem, comme Diane Van Fleek, comme d'autres auxquelles j'ai participé. Ce qui change les choses avec DNA, c'est que, et ça m'était jamais arrivé, on est susceptible de changer de réalisateur dans la même journée. Et ça, c'est quelque chose qui est pas dérangeant, mais simplement, il faut s'adapter. D'avoir beaucoup de textes à apprendre, c'est pas nouveau pour moi. J'ai fait beaucoup de théâtre, donc j'ai l'habitude d'apprendre beaucoup de textes et des gros volumes. Donc c'est pas ça le problème, il y a pas de problème, c'est juste que il faut s'adapter à ce qu'il y ait trois plateaux différents, trois équipes différentes, et on passe de l'un à l'autre comme ça, très vite, donc ça c'est nouveau. Mais comme c'est nouveau, c'est intéressant.
T'as commencé à tourner quasiment début juin. Est-ce qu'on peut espérer voir ton personnage quand même sur la longueur, du coup, et sur plusieurs arches à l'avenir ?
C'est comme ça que les choses m'ont été présentées. À partir du moment où ces personnages et le frère de Marianne, qu'il s'installe à 7, puisqu'il prend sa retraite, il n'a pas vocation à disparaître au bout de 15 jours. Après, si les auteurs veulent le faire mourir, c'est eux qui décideront. Mais normalement, il s'inscrit dans la durée.
Les projets ? Pour toi, pour cette rentrée, Laurent ?
Alors déjà, il y a eu Camping Paradis qui a été diffusé le 10 juillet aussi sur TF1. Et je vais certainement tourner une mini-série avec les producteurs de Camping, Richard Berkovitch et Mathieu Delarive, qui tournent une mini-série en 4 épisodes sur une histoire policière, une histoire vraie, qui s'est passée en France, mais dont je ne peux pas trop parler pour le moment.
Un projet qui devrait arriver en tournage pour l'automne peut-être ?
Qu'on va tourner entre le 18 septembre et le 15 novembre.
Eh ben voilà, comme ça c'est dit. Du théâtre aussi ? Je sais que t'aimes bien aussi ça. Hein ouais. C'est quelque chose qui te plaît particulièrement de te retrouver sur scène et d'avoir les réactions du public en direct.
C'est ce que j'ai fait le plus dans ma vie et ce qui se voit le moins. Mais pour l'instant le théâtre malheureusement pas, parce que tous ces tournages justement m'empêchent d'être au théâtre. On peut pas tout faire. Donc le théâtre viendra j'espère un peu après.
On te retrouve en tout cas dans Demain nous appartient, du lundi au vendredi, pour notre plus grand plaisir. C'est à 19h10 sur TF1. Merci Laurent d'avoir été avec nous et à très bientôt.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli et à très bientôt effectivement.
Il a un fusil et retient deux personnes.
La seule chose qu'il veut, c'est qu'on lui dise Victor Brunet.
Il a tué ma femme. Je vais y aller, je vais me livrer.
C'est mon opération. Alors laissez-moi la gérer.
Sauf qu'apparemment, vous n'y rêvez pas.
Il y en a un qui bouge. Je tire.
En ce moment, on fait que se prendre la tête. Hein.
C'est plus comme avant. Imagine que vous avez pris la bonne décision. Je vous conseille vivement de nous parler.
Allez, toute la troupe de Pour le meilleur et pour le pire, Rebecca Anton, Boudère, Audrey Garcia et tous les autres nous rejoignent dans un instant. Thomas Hoff également. Alors surtout, ne bougez pas, tout de suite.
Salut, c'est Franck Dubosc. Moi, chaque semaine, j'écoute Alain Jeanne dans Chut, on écoute la télé.
L'invité d'honneur de la semaine.
On va parler de la pièce Pour le meilleur et pour le pire. C'est la pièce de cette rentrée qui a déjà tourné tout au long du printemps. On y retrouve un casting de choix avec Rebecca Anton, Boudère, Thomas Hoff, Amélie Robert, avec Audrey Garcia et Florence Savigna, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est la seule qui manque à l'appel. Mais en tout cas, vous êtes déjà là tous les cinq. Bonjour à tous et merci de faire cette rentrée avec nous.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Merci de me recevoir.
Merci d'être là. Pour le meilleur et pour le pire, ça va tourner tout au long de l'automne. Et j'ai l'impression que la belle histoire n'est pas terminée parce que ça a connu un succès assez incroyable au printemps. Et on a l'impression que vous vous amusez assez follement, rien que quand on voit les extraits. Donc j'imagine qu'en vrai, en live, c'est une pièce qui vous a beaucoup plu. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui tout de suite, en tout cas? Rebecca, on va commencer par les filles.
Alors moi, ce qui m'a fait dire oui tout de suite, c'est déjà la proposition de Guillaume Mélany, qui est un auteur que j'adore. C'est une pièce qui a été écrite par Guillaume Mélany et Jean Franco. J'avais déjà interprété Panique au ministère, qui était une pièce de ces deux auteurs, que j'avais adorée, que je jouais aussi avec Amélie Robert, qui est là, qui jouait ma fille à ce moment-là. Et j'ai lu la pièce. Rien qu'en la lisant, ça m'a fait rigoler. Donc j'avais très envie de partir dans l'aventure. Et ensuite, on s'est tous rencontrés. J'avais envie de rester dans l'aventure. Et j'ai envie d'y rester toujours, voilà.
Et la chimie a fonctionné tout de suite. Amélie, toi, qu'est-ce qui t'a fait dire oui tout de suite?
Moi, c'est Guillaume et Jean, parce que c'est un duo d'auteurs que j'admire, qui me font vraiment rire. Et bon, je trouve que, enfin, moi, ça fait longtemps que je joue des comédies, et celle-ci, quand je l'ai lue, j'ai rigolé à voix haute chez moi, quoi. Donc, toute seule devant mon carnet. Et puis voilà, c'était la perspective de refaire une pièce avec Guillaume et Jean. Je savais qu'elle était forcément bien écrite. J'adore travailler avec Guillaume, qui est un excellent metteur en scène. Il est tellement bienveillant. Enfin voilà, c'est quelqu'un de qui a une super belle humanité, et c'est toujours un plaisir. Et en plus, Rebecca aussi était là, et voilà, c'était mon petit coup de cœur sur Panique au ministère aussi. On s'est rencontrés, on s'est bien entendu. Donc voilà, c'était évident que j'allais dire oui. En plus, il m'a dit, on a écrit un rôle, il est pour toi, il te va comme un gant. J'ai fait oui, c'est vrai. Donc voilà, et quand j'ai rencontré tout le monde, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a bien fait de dire oui, quoi.
Audrey?
Ben moi, pareil, c'est retrouver Guillaume Mélany, avec qui j'ai démarré il y a 20 ans. Et on n'avait jamais rebossé ensemble, on avait gardé un lien. Mais quand il m'a proposé, j'ai dit oui tout de suite, sans même lire. Et effectivement, en lisant, bon, bah, je me suis dit qu'on allait bien se marrer. Et après, en sachant le reste de l'équipe, voilà, parce que c'est un des talents aussi de Guillaume, c'est de réunir les gens. Et voilà, partir en tournée comme ça pendant un an, faut vraiment avoir du flair, réunir les gens et qu'on s'entende aussi bien.
Thomas, qu'est-ce qui t'a plu, toi?
Moi, ouais, c'est leur univers, le sens du dialogue et du rythme qu'ils ont. Et puis travailler avec Guillaume Mélany, qui est un metteur en scène que j'adore. Et ça faisait une dizaine d'années que je n'étais pas monté sur scène. Du coup, j'avais le trac. Et c'est lui qui a réussi à me convaincre de repartir à l'aventure. Et que je regrette pas du tout, parce que c'est la troupe est folle. La pièce est géniale. On rigole, nous, sur scène. Ils rigolent, le public rigole aussi. Donc tout le monde est heureux sur ce projet.
Très homogène, en tout cas. Et Boudère, qui a rejoint cette troupe-là, sur cette pièce aussi. Là aussi, on a l'impression que tu t'amuses beaucoup. Boudère, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a fait dire oui dans ton planning ultra chargé déjà?
Ce qui m'a fait dire oui déjà dans un premier temps, c'est à la lecture de la pièce. Moi, je connaissais pas Guillaume, je connaissais pas Jean. J'en avais entendu parler. Ceux qui s'écrivaient des pièces comme Panique au ministère, tout ça, des pièces qui étaient assez rigolotes. Quand j'ai lu l'histoire, ça m'a fait vraiment rire. Et j'ai découvert le casting juste après. J'étais très content de mon acceptation. J'étais très content.
Au théâtre, on est sans filtre. Rebecca, tu voulais rajouter quelque chose d'avant?
Je voulais rajouter quelque chose qui est que quand même quand on a su qu'on allait jouer avec Boudère, je vais parler pour moi. Moi, j'avais déjà joué avec des comédiens qui ont l'habitude d'être seuls en scène, et c'est vrai que j'avais un peu peur qu'il soit comme un stand-upper, quoi. Et en fait, c'est vraiment un des comédiens les plus généreux que j'ai rencontré, et c'est tellement un bonheur de jouer avec ce comédien. Il est généreux sur scène, il est généreux dans la vie, il fait attention à tout, et on pouvait pas rêver une troupe meilleure que celle-là, en fait.
Alors oui, il doit y avoir des moments, parce que on est sans filtre sur une pièce de théâtre, et souvent, ce que les spectateurs adore, c'est quand ça part un peu en sucette et qu'il y a des moments d'impro. Et ça, c'est souvent des moments où que des fois il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Et que voilà. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, sur cette pièce, Rebecca?
Cette pièce, elle part beaucoup en cacahuète. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des auteurs qui ont écrit une pièce qui part en cacahuète.
Donc, on veut dire que c'est de la cacahuète maîtrisée, quoi.
Alors, bon, on essaie de la maîtriser au mieux, mais je veux dire, c'est vraiment ce qui est écrit. On n'est pas dans l'improvisation. Il n'y a pas d'improvisation. C'est vraiment Jean Franco et Guillaume Mélanie qui ont donné cette folie à la pièce. Et nous, on interprète nos rôles, mais c'est vrai qu'on part pas. Il n'y a pas d'impro. On n'est pas en train d'essayer de se faire rire les uns les autres. De toute façon, on se fait rire les uns les autres.
On pourrait même transformer le mot pire en rire, parce que on va beaucoup rire en allant voir cette pièce. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez un moment préféré chacun dans cette pièce que vous kiffez particulièrement? Boudère, on a commencé par les filles, on va commencer ce coup-là par les garçons.
Bah, ce qui est bien, ce qui est équilibré dans cette pièce, on a tous un moment à nous, vraiment, où on est à un moment donné, soit on est en duo, alors qu'on est six sur scène, hein, mais on a tous notre moment de partage. C'est ça que j'ai, franchement, c'est super, je sais pas s'il a fait exprès, mais on a tous vraiment un moment où moi j'ai mon moment avec Rebecca, j'ai mon moment avec Thomas, je l'ai avec Flo, je l'ai avec Amélie et je l'ai avec Audrey. Et on a tous un moment vraiment précis dans la pièce et c'est un moment très drôle. Donc c'est ce qui permet aussi qu'il n'y ait pas de différence entre les rôles déjà. Il n'y a pas un rôle plus intéressant que l'autre ou plus drôle que l'autre, parce qu'on a tous notre moment comique dans cette pièce. Et ça, c'est franchement super bien fait.
Bon, on va pitcher un peu quand même, hein, parce que on n'a pas parlé d'histoire. Qui c'est qui veut nous pitcher un peu l'histoire dès le départ, les 5 premières minutes en gros, pour donner envie maintenant aux spectateurs d'aller vous voir en tournée? Boudère?
J'ai pas lu le texte, mais...
Ça, c'est bête.
Je peux vous en parler un peu. Non, mais c'est l'histoire de Jeanne. Jeanne qui est une organisatrice de mariage et qui est juste surendettée de partout. Elle doit de l'argent à l'EHPAD pour son père. Elle doit de l'argent pour l'école de sa fille. Elle doit de l'argent à des traiteurs. Elle est surendettée. Et là, on lui propose d'organiser un mariage pour lequel elle aura beaucoup d'argent. Et avec cet argent, elle pourra régler tous ses soucis. Et en gagner aussi un petit peu, sauf que rien ne se passe comme elle veut.
Ça serait pas marrant autrement.
Ouais, voilà. Et le.
C'est un homme qui s'appelle Serge. Et c'est le duo et donc Jeanne et Serge.
D'accord.
Et donc il n'y a rien qui se passe comme prévu. Et à la fin, on ne sait pas est-ce qu'ils vont faire le mariage ou pas. Donc je vous spoilie pas l'histoire, mais c'est une pièce très marrante, bien bien rythmée et à voir en famille. C'est très rare aujourd'hui d'aller voir des spectacles en famille. Et cette pièce-là, vous pouvez y aller en famille.
Dernière question, on va terminer par vos projets pour cette rentrée, pour cet automne en plus de cette pièce pour le meilleur et pour le rire. Alors Rebecca, toi c'est parti pour la IAC, la vérité qui compte, nouvelle version sur C8 avec de nouveaux numéros inédits après avoir fêté les 20 ans pendant un an pour le coup sur C8, et ben ça repart en inédit et du coup tu reprends ta place avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine.
Exactement, je reprends ma place dans la loge et je reprends mon petit rôle de facteur. Je vais remettre les invitations, donc voilà, ben, ça se passe bien, puis on est un peu surexcité de se retrouver 20 ans après dans le bureau. C'était très drôle quand on s'est retrouvés tous les trois dans le bureau à reparler du projet. On s'est regardé et effectivement on s'est dit que 20 ans était bien passé quand même.
Oh, il n'y a pas de ride, oh là là, faut arrêter. Et puis plus belle la vie, peut-être un retour par la suite. Tu n'es pas contre un retour éventuel une fois que tous ces beaux projets en tout cas ont été menés dans l'immédiat. T'as pas le temps, mais ça viendra peut-être.
Moi je ne sais pas, c'est vrai que pour l'instant je ne peux pas, voilà, mais on sait jamais. Ce que je disais, comme je reprends, il n'y a que les vérités qui comptent, 20 ans après je peux reprendre plus belle la vie
20 ans après
40 ans après.
Bon, la porte n'est pas fermée, on a bien compris. Boudère, ses projets pour la rentrée?
Bah, toujours le spectacle Le Boudère is back, toujours partout en France. J'ai tourné un téléfilm pour TF1.
Cet été
que j'ai coécrit et que j'ai mis en scène. Et donc voilà, qui passera à la télé dès que le montage est fini. Et je suis toujours en tournée avec le spectacle Boudère is back, mon seul en scène, un peu partout en France.
Et le Grand Cirque à découvrir peut-être en VOD et DVD si vous l'avez pas encore vu. Un très très beau film que je vous conseille, dont on a parlé justement au Festival des Héros du Cinéma fin juin. Et puis vos projets, Thomas, Amélie et Audrey?
Moi je suis en train d'écrire mon premier long métrage, voilà, qui devrait rentrer en production normalement l'année prochaine. Voilà, on va partir en casting juste pour trouver les personnages du film et en repérage aussi pour les décors. Et puis la pièce qui va nous prendre déjà beaucoup beaucoup de temps et dans laquelle je me régale de toute façon.
Amélie.
Alors moi j'ai un projet mais qui n'est pas du tout du théâtre, mais je découvre les métiers de la voix. Là depuis peu j'ai commencé à faire du doublage et je me suis découvert une vraie passion pour ça. C'est un exercice ultra de vivacité, de dextérité et tout, et j'adore, c'est quelque chose qui me fait vraiment je dépasse vraiment ma zone de confort. Donc là c'est mon projet de tout mettre là-dedans pour faire une petite place.
C'est chouette, les comédiens de doublage, on n'en parle pas assez justement, et c'est un véritable travail des fois difficile justement pour faire passer toutes ces émotions des comédiens originaux, pour le coup sur, comme des séries américaines ou des films. Audrey.
Moi j'ai un projet de réalisation au mois d'octobre-novembre, j'ai réalisé un premier court-métrage l'année dernière, et là ça va être le second, donc c'est voilà mon autre casquette de réalisatrice, voilà, donc je suis en train d'écrire.
Et ben voilà, ça va arriver donc très vite en tout cas. Merci tous les cinq d'avoir été avec nous, on embrasse Florence également qui n'était pas avec nous et qui fait partie de la pièce, vous êtes 6 sur scène pour le meilleur et pour le pire, ça va tourner tout cet automne près de chez vous, vous pouvez découvrir toutes les dates évidemment sur tous les bons sites internet de billetterie. Merci à tous les 5 et à très vite.
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute on écoute la télé, on aura le grand honneur de recevoir monsieur Olivier Marchal qui sera notre invité exceptionnel pour nous parler de la sortie VOD et DVD du film Pour l'honneur. Fred Bianconi également pour Ainsi grand soleil alias Virgile sera notre invité. 21 juin le duo, également le groupe viendra nous parler de la sortie de son EP, et puis enfin on parlera cinéma également avec Vision de Yann Gozlan, et puis on parlera également du film Anti-Squat.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com, et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram, applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07. Pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels avec une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est deux agences en Charente, à votre service, à Angoulême et Villebois-Lavalette, et sur mazagran-immobilier.com.